Il est 21h et vous écoutez Au Pays des Rêves.
La vision du monde de la nuit, la vision du monde de la musique électronique, qui est tellement négative depuis tellement d'années.
Tu dis la musique techno, mais c'est pas simple.
Au Pays des Rêves, un mardi par mois à 21h sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour le 6e épisode de Au Pays des Rêves. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale dans le milieu festif et dans le milieu techno principalement. On va parler de drogue, de précarité, mais aussi de questions de genre, de racisme, de discrimination. Ça fait longtemps que je voulais que l'on discute de la santé mentale dans cette émission, que ce soit celle des artistes et du public, mais aussi celle des personnes de l'ombre, entre guillemets, les techniciens, les techniciennes, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et c'est malheureusement un sujet encore assez tabou dont on peut très vite avoir honte. Alors aujourd'hui, avec nos invités, on va se demander comment prendre soin de soi quand on crée, quand on milite, quand on fait danser les autres, et comment est-ce qu'on peut construire une fête qui ne blesse pas. En plus de tout ça, quelques tracks pour vous faire voyager un peu tout au long de l'heure que l'on va passer ensemble avant qu'Agathe ne prenne le micro pour nous livrer sa balade poétique en fin d'émission. Alors on va s'attaquer ce soir à tous ces sujets avec nos invités. On est avec Anas du collectif Technoplus. Bonsoir Anas.
Salut.
Technoplus, c'est une asso de santé communautaire qui vise à promouvoir les stratégies de réduction des risques liées aux pratiques festives. On est aussi avec Stencia.
Salut Stencia.
Salut.
Tu es podcasteuse et tu as créé un podcast Mental Health Radio. C'est un podcast consacré à la santé mentale des artistes et des personnes queer et trans de couleur, si je ne me trompe pas.
Exactement.
On est aussi avec Célia, alias Bambi. Tu es DJ, tu fais partie des collectifs Réinventer la Nuit et Au-delà du Club, avec qui tu coordonnes notamment le projet des cercles de parole dont on va parler tout à l'heure. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, on est avec Caillou, tu fais partie du collectif de l'asso Nataraja. C'est un collectif de musique psy-trans dont tu vas également nous parler. Salut.
Bonsoir.
Alors, pour commencer, je voudrais vous demander comment est-ce que vous décririez-vous l'état de la santé mentale aujourd'hui dans le milieu techno, dans le milieu festif? Quels sont, vous, vos liens avec ce sujet? Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'il est suffisamment pris au sérieux? Je vous laisse la parole, allez-y, la parole elle est libre, répondez-vous, sentez-vous libre de parler.
Ok. Bon, je vais commencer. Alors c'est vrai que moi je ne fais absolument pas partie de la communauté de la fête techno, on va dire. Je suis cofondatrice d'une soirée qui est la Pulse, mais c'est vrai qu'on n'est absolument pas sur un registre techno. Cependant, j'ai reçu du coup dans mon émission des personnes qui sont actrices des scènes techno, mais qui aussi sont consommatrices, en tout cas qui font partie de cette communauté-là. Donc moi, c'est vrai que je pense que je ne serai pas forcément la plus légitime, mais en tout cas, je ne suis pas dans le sens où je ne fais pas partie de cette communauté, mais je peux simplement rapporter des témoignages qui m'ont été livrés du coup sur mon émission. Et c'est vrai que de ce que j'ai pu comprendre et entendre, c'est un milieu au sein duquel, en effet, il y a... Après, je pense dans tous les milieux festifs, parce que je le constate aussi à travers la Pulse, dans tous les milieux festifs et dans le milieu artistique globalement, il y a un vrai problème au niveau de la santé mentale des artistes. C'est-à-dire que les gens vont mal, mais ne savent pas forcément comment en parler. Et du coup, vont avoir accès à des béquilles chimiques pour s'en sortir, ou en tout cas pour soit être plus performant, soit pour oublier, ou soit pour faire la fête avec une durée complètement indéterminée, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est assez problématique. Et en tout cas, les personnes que j'ai reçues dans mon émission disaient à quel point ça, il y a eu un avant-après, à quel point ça a été un fléau aussi dans leur vie, parce que leur prise de substance a été couplée avec pas mal de choses qui pouvaient se passer à côté dans leur vie personnelle. Et c'est là que le danger commence, en tout cas quand il n'y a pas forcément d'encadrement, quoi, je pense.
Si je peux me permettre de rajouter, pour moi, donc Technoplus, nous on est vraiment toute l'année avec des collectifs qh, qui sont, comment dire, à la fois organisatrice de free party, de rave party ou d'événements plus déclarés. Et du coup, nous, le constat qu'on pose, c'est que vraiment, l'état de la santé mentale dans ce milieu-là, il est vraiment complexe et ambivalent, dans le sens où c'est des milieux qui sont perçus comme des espaces d'expression, de liberté, de libération émotionnelle. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est très marqué par des dynamiques qui vont être celles de la surconsommation, celles du manque de sommeil, celles de la pression, de la pression sociale, parce que mine de rien, l'apparence, la performance, les questions d'inclusion, bah, elles restent super centrales. Et aussi les questions d'instabilité économique, où on reviendra dessus un petit peu plus tard. Mais je pense que c'est des sujets qui sont pris de plus en plus sérieusement, qu'on regarde certains festivals ou collectifs qui arrivent à prendre des mesures concrètes sur la question, que ce soit par des équipes internes de psychiatres, des équipes de soutien qui vont être très clairement montées en amont du festival, où on va vraiment chercher à former des personnes du collectif sur ces questions-là. Chose que je ne voyais pas il y a 5-6 ans. Donc je trouve qu'il y a vraiment un espèce de déclic, et moi je le lis vachement à la fin du Covid, parce que mine de rien, ça a mis une vraie sonnette d'alarme sur la question de la santé mentale. Alors la question de la santé mentale des jeunes, certes, mais en fait même de manière plus globale, on se rend compte qu'on a une majorité de nos publics qui sont qui sont dans un état mental qui peut être grave préoccupant, qu'au-delà de ça, la question du manque de connaissances en maladie mentale, il va vraiment empêcher la mise en place de politiques de prévention un peu efficaces. Et que même quand ces politiques de prévention, elles existent, souvent les gens ne sont pas au courant qu'elles existent. Et du coup, on est vraiment dans une situation où il y a plein de choses qui vont venir se mêler. Et en fait, au milieu de ce milieu festif, beaucoup de personnes se sentent finalement pas pertinentes, légitimes à aborder ces questions de santé mentale. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter ?
Moi, je dirais qu'à l'échelle de la société, il y a une certaine prise de conscience de l'importance de la santé mentale, mais que la prise de conscience elle ne suffit pas. Et malheureusement, on est souvent livré à nous-mêmes. Donc, on doit mettre en place nous-mêmes des politiques de prévention au sein de nos événements, mais c'est parfois pas suffisant. Et donc on se tourne vers des collectifs comme Techno Plus ou Consentis pour se former en interne et pouvoir accueillir notre public comme il faut.
Et toi, Célia, quel est ton lien avec la santé mentale?
Déjà via ma pratique d'être artiste, ma pratique du mix, mais aussi sous ma casquette de militante, je pense que via ces différents aspects, ça m'impacte directement. Là où il y a 5 ans, avant que je sois DJ, avant que je fréquente les milieux festifs autrement qu'en tant que public, en tant que cliente, ça n'était pas le cas. Enfin, vraiment, plus j'avance et plus je me rends compte de choses, je déconstruis certaines pratiques. Et j'avance dans mon militantisme et je fais principalement de la prise en charge de victimes, donc je suis confrontée à certains témoignages en collectif, donc je me rends de plus en plus compte qu'il me faut aussi des espaces hors militantisme, et enfin il me faut des breaks aussi, il me faut des moments où je délivre aussi cette colère, enfin il y a plein d'émotions en fait, c'est assez chargé et intense, et elle m'impacte à plein d'endroits, enfin en tout cas je suis confrontée à prendre soin de moi de plus en plus via plein de choses, mais c'est des choses assez récentes en fait que j'essaie de mettre en place. Je ne sais pas si je développe maintenant ou s'il y aura des questions plus précises après.
Ouais, on va développer après, je pense.
Ça marche.
Alors, pour mener à bien cet épisode, je me suis appuyée sur une étude menée par le collectif Cura en 2022. Cura, c'est un collectif qui veut faciliter l'échange et l'information entre les artistes, les professionnels de la musique, les associations de santé, les thérapeutes, etc. Et elles essaient de permettre aux musiciens, musiciennes et aux professionnels de la musique d'avoir un espace privé où s'exprimer et de pouvoir trouver les informations nécessaires, qu'elles aient besoin de s'adresser à un ou une professionnelle de la santé ou qu'elles aient besoin de simples conseils pour rendre leur vie, leur pratique plus simple. On va donc reprendre quelques chiffres de cette enquête et essayer de les appliquer au secteur de la musique électronique. des raves, des free parties, etc., pour mieux les comprendre et discuter de possibles solutions à cette problématique de la santé mentale des artistes. Dans un premier temps, l'étude, elle montre que 22% des artistes souffrent d'anxiété et 15% de burn-out. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette pression-là dans vos parcours, dans vos entourages? Est-ce que vous avez déjà dû y faire face, et si oui, comment?
Alors, nous, on le voit très souvent, notamment, donc, réduction des risques, pour ceux qui ne connaîtraient pas au bout de l'antenne, ça implique du coup de donner de l'information, donner du matériel, mais aussi beaucoup de s'occuper des personnes en détresse et en souffrance. Et en fait, ce qu'on voit, c'est, moi, l'analyse que je porte sur cette pression, c'est qu'elle est avant tout systémique, en fait. Dans le milieu électro, rave, festif en général, on évolue dans des espaces qui sont souvent précaires, autogérés, invisibilisés. On est censé tenir coûte que coûte. Et en fait, on encaisse toutes ces pressions-là en tant qu'organisateur, artiste, bénévole, par passion, par nécessité, mais c'est quelque chose qui peut être vachement épuisant. La question de l'anxiété, du burn-out, en fait, c'est pas des problèmes perso. C'est le reflet pour nous, en tout cas, d'un modèle qui va épuiser les corps et les esprits sans prendre soin de celles et ceux qui le font vivre. Donc, dit de manière plus simple, la question de comment on adresse la question de la santé mentale et comment on y répond finalement à cette détresse qui se veut grandissante. C'est vraiment la question qu'on essaie de traiter ces temps-ci. On voit qu'il y a de plus en plus de festivals, comme je pense notamment à deux festivals, le festival Facette, qui est littéralement un festival sur la santé mentale. Et il n'y a pas longtemps, il y a le collectif Cluster qui a fait un événement qui s'appelle la Marateuf, qui était des événements pendant 24 heures. Et juste avant qu'ils lancent ces événements, ils ont notamment fait une plénière sur la question du care. Comment on prend soin de soi, comment on prend soin des autres. Et ce qu'on voit, c'est que du coup... c'est non seulement un sujet qu'on se représente de mieux en mieux, mais qu'en fait, qui se veut aussi de plus en plus plaisant. Il y a vraiment une question du silence dans cette communauté-là qui est super dangereux. C'est OK, en fait, d'avoir un burn-out. Mais souvent, quand tu le découvres, la personne, elle est en burn-out depuis 6 mois. Et du coup, ça crée de vrais, comment dire, de vrais enjeux. C'est vraiment... Il y a un vrai manque de reconnaissance sur ces questions.
Non, en vrai, c'est un sujet tabou, c'est un sujet hyper intime dont, de base, je trouve que c'est un sujet qu'on aborde de manière de plus en plus décomplexée, mais depuis très peu de temps. Je pense que la génération de nos darons, ça parlait pas, en fait. Mmh. Après, ça dépend, même culturellement, dans certaines familles, peut-être que ça parlait plus ou quoi, mais... Moi, je sais que c'est un sujet vraiment très, très. Enfin, ça fait pas très longtemps que je l'adresse, ou en tout cas de manière informelle, je le faisais avec des copines, avec des gens où vraiment je me sentais très intime. Mais déjà prendre la parole en public, déjà c'est des sujets que je prends conscience depuis peu, en fait, et du coup l'adresser de façon publique, politique et en collectif, je trouve que ça se fait de plus en plus, mais c'est assez récent, quoi, parce que déjà c'est hyper intime, c'est traumatisant, trigger, et en fait c'est tabou. Mais du coup, tu parlais de l'anxiété chez les artistes, et moi, ça fait écho de ouf, en fait, parce que je suis DJ, les DJ sont quand même affiliés sur une partie du week-end, donc en fait, on travaille le week-end, là où la société se repose normalement, on travaille de nuit, le milieu nocturne est confronté quand même à des enjeux assez spécifiques, quand on pense juste à la prise de consommation, à l'alcool, enfin, aujourd'hui, pour faire des thunes sur un événement, il faut vendre au bar, ce genre de choses. J'écoutais justement ton podcast avec Vincent en venant et ça a résonné à plein d'endroits. Mais du coup, voilà, quand je vais sur mon lieu de travail, tout le monde est déjà en train de picoler, consommer. Moi, j'ai mis mon réveil, j'étais à l'hôtel toute seule. Enfin, c'est aussi assez isolant comme pratique. J'adore être autonome, j'adore ça c'est par ailleurs quelque chose qui m'en pouvoir de me sentir libre et autonome dans ma pratique. Mais c'est quelque chose, c'est assez isolant, et je pense vraiment pas que c'est pour tout le monde, et je pense que les gens aussi se rendent pas compte quand on voit sur les réseaux, tu vois des vidéos qui durent 10 secondes de tout le monde qui est en feu sur le dance floor. En fait, on voit pas que le DJ ou la DJ derrière, ça fait 3 fois qu'elle joue, elle est épuisée, elle a pris l'avion, elle a mal mangé parce qu'il y a rien à manger aux gares ni aux aéroports. Enfin voilà, c'est assez intense. Et donc c'est une chose, le soin en fait qui est lié à cette pratique spécifique. J'allais dire autre chose. Ouais, pardon. Et aussi, bah, juste via Réinventer la Nuit, donc l'initiative de laquelle je fais partie depuis un an, on organise des cercles de parole et c'est là où on se rend compte que non seulement c'est un enjeu qui concerne tout le monde dans le milieu nocturne, mais ça concerne particulièrement les personnes sexisées.
Ouais.
Si on prend en plus l'intersectionnalité, c'est plus tu vas loin dans ton isolement de par ton identité et plus tu es confronté à ces sujets de santé mentale. Ouais. Au début, on s'était dit, on va organiser des cercles pour les artistes parce qu'on est toutes artistes dans l'initiative. Et plus on avançait et plus on avait des demandes de la part d'orgas, de promoteuristes, de personnes autres, en fait, de professionnels juste dans l'écosystème. Et en fait, on a ouvert aux techniciennes, aux personnes de sécu, on a une physio qui vient. Enfin voilà, c'est assez complet en fait. Et encore, on n'a pas de personnel de bar. Enfin, ce serait cool que ça résonne chez encore plus de monde. Mais on se rend compte que même si on n'est pas au même endroit dans ce secteur, tout résonne. On subit les mêmes violences, on se prend le même mansplaining, que ce soit derrière les platines ou à l'accueil artiste. En fait, c'est présent de partout. Et donc, on arrive souvent au cercle en étant assez anxieuse, en se disant qu'on va mettre des mots pour la première fois sur certains événements, parfois récents. Et en fait, on repart avec, je sais pas, des frissons un peu, de se dire, c'est assez empouvoirant de créer ces espaces. Qui, comme je disais, existait de manière très informelle et parfois ça n'existait pas chez certaines personnes. Il y a certaines personnes qui arrivent en cercle en découvrant des trucs. En fait, enfin, il y a une certaine identification qui se fait sur le moment même et de prise de conscience qui se fait juste en écoutant et en étant là. Et je pense que nous, on a une posture assez optimiste sur tous ces sujets-là. En se disant que c'est d'abord en les pointant du doigt, puis ensuite en collectif, qu'on peut mettre en place plus de soins, plus aussi de sensibilisation. Et voilà.
Toi, Stencia, justement, les artistes que tu reçois dans ton podcast, comment ils et elles te parlent de ça, du stress, du burn-out, de l'anxiété, etc.
En fait, si tu veux, pour ces personnes-là, c'est assez inédit, parce que la plupart du temps, c'est la première fois qu'elles en parlent. Après, moi, c'est vrai que j'ai fait le choix aussi de prendre des personnes qui sont identifiables dans l'espace public parce que justement on n'a pas l'habitude de les entendre parler et qu'on va très souvent les idéaliser parce que c'est des artistes connus, suivis, etc. et que on ne s'imagine pas en fait toute la partie cachée de l'iceberg, la solitude, le travail, la précarité à certains moments, les sacrifices aussi que ça demande et l'après aussi, les silences. Et aussi comment ça se passe quand t'accèdes aussi à une certaine forme de notoriété, comment ça peut t'isoler d'une certaine manière, etc. Et c'est vrai que non seulement c'est inédit, mais à la fois c'est pour Yael, c'est un grand moment de vulnérabilité parce que c'est vraiment la première fois qu'elle en parle et avec autant de transparence quoi et de sincérité quoi. Mais je trouve que c'est hyper important, en tout cas pour moi c'est important de choisir des personnes identifiables, non seulement pour ne plus qu'on les idéalise d'une certaine manière, qu'on les humanise, mais surtout qu'on puisse s'identifier. Parce que finalement, la santé mentale, c'est un sujet qui touche tout le monde. Après, c'est vrai qu'en fonction de nos biais, en fonction de nos intersectionnalités, en fait, ça va varier. Comme tu l'as dit, c'est vrai que plus t'avances et plus tu te rajoutes des couches d'intersectionnalité, et plus justement c'est compliqué. Et pour moi, c'est pour ça que c'est hyper important de parler de la santé mentale des personnes racisées, de la santé mentale des artistes noirs, de la santé mentale des femmes noires artistes, parce qu'on est confronté à énormément de choses dont on ne parle pas. Mais qui sont complètement normalisés parce que on est dans une société exceptionnelle. mais c'est vrai que visibiliser et donner le plus de force à ces discours-là, c'est nécessaire. Et aussi, je sais que notamment, l'année dernière, j'avais donné la parole à plusieurs artistes avec Azix et on avait notamment abordé tout un épisode sur les addictions avec le Duke qui parlait du coup pour la toute première fois de son rapport avec les drogues et comment ça l'a bouleversé, combien ça l'a chamboulé, combien ça a donné une trajectoire complètement différente dans sa vie. Et je pense que avoir des témoignages comme ça et donner la parole à ce type de personnes-là, comme ça, en créant des moments comme ça, ou comme vous pouvez le faire avec Réinventer le Club, c'est genre vital, nécessaire et super important surtout.
Bah merci beaucoup. On va faire une première pause musicale. On va s'écouter Fashion de Collard. C'était Fashion de Collard. On se retrouve pour parler maintenant de précarité. 38% des artistes interrogés dans cette étude gagnent moins de 1 300 € par mois. Quel impact a la précarité sur la santé mentale des artistes et des travailleuses de la nuit selon vous? Qu'est-ce qui manque aussi aujourd'hui pour mieux protéger ces personnes-là?
Je me permets de répondre.
Vas-y, t'en prie.
C'est vrai que là, ça va plus être ma casquette de organisatrice de soirée. Bah oui, pour moi, ce qui manque, ce sont les moyens. Alors, dans mon cas, oui et non. Parce que c'est vrai que nous, avec la Pulse, on a la chance de pouvoir collaborer assez régulièrement avec des marques qui nous permet du coup de payer les artistes et de les mettre dans des conditions optimales. Mais on a conscience que ça n'est pas le cas de tout le monde. Et ce qui manque, même si voilà, on demeure quand même un collectif auto-financé par deux femmes noires, Mariana et moi-même, mais c'est vrai que je pense que ce qu'il faudrait le plus, ce sont des moyens, tout simplement. Des moyens financiers, des moyens humains. Et des espaces aussi, pour qu'on puisse déterminer quels sont ces moyens-là. parce que voilà, et c'est vrai qu'aussi je me rends compte, là ça fait 3 ans que j'organise des soirées, mais c'est vrai que je me rends compte que encore une fois, on n'a pas tous et toutes accès aux mêmes chances, ni aux mêmes établissements, ni aux mêmes deals, et que du coup, et c'est normal après par rapport aux deals, mais c'est vrai qu'après, à cause de tout ça, ça fait qu'on n'est pas, il n'y a pas forcément d'équité. Donc du coup, on ne peut pas prendre soin des artistes avec lesquels on travaille de la manière dont on aimerait le plus, quoi, finalement. Mais je pense qu'il y aurait plus de moyens financiers, plus d'espace aussi, et aussi que les investisseurs, que les marques aussi puissent, en tout cas, tout dépend avec quel type de personnes on travaille, mais qu'il y ait vraiment un réel échange, en fait, sur les besoins clairs. Je pense, je sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais...
Oui, c'est très clair.
Voilà, quoi. Plus de moyens.
Financer la culture, en fait.
Financer la culture.
Ouais, et pour booker d'autres personnes... je remarque souvent que les programmateuristes, du coup, aujourd'hui, pour programmer une soirée, si tu vas regarder le nombre d'abonnés sur Insta... on voit dans plein de programmations de festivals les mêmes artistes, des headliners et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plus de moyens pour pouvoir booker des personnes émergentes, en fait, et leur donner leur chance à elles aussi, si possible pas des hommes blancs, racistes, et que ce soit plus inclusif aussi, qu'il y ait plus de représentation. Arrêter avec l'imaginaire commun de l'artiste, il faut qu'il aille mal, forcément c'est dur. Tout ça, en fait, c'est un imaginaire, je pense, qui nourrit cette précarité financière aujourd'hui.
Juste rebondir sur quelque chose par rapport à ce que tu as dit, qui est hyper intéressant. Nous, du coup, par exemple, avec la Pulse, on trouve qu'il est hyper important, et on le dit justement avec toutes les marques et tous les établissements avec lesquels on peut travailler, que les personnes les plus privilégiées puissent aider les personnes minorisées. Nous, par exemple, on est des femmes cis noires. C'est hyper important pour nous, par exemple, de donner la possibilité à des personnes, par exemple trans, ou même des personnes de notre communauté, de travailler, de s'enrichir également. Et je pense qu'il est hyper important aussi que tout le monde, et notamment les personnes blanches, puissent aussi agir en allié, répartissant justement les ressources de façon équitable aussi. Nous, encore une fois, je sais qu'on le fait, mais c'est vrai qu'après, on va mettre... un point d'honneur à conserver aussi ces ressources pour les personnes de notre communauté, donc pour les femmes racisées et pour les personnes transmasculines et non binaires. Mais c'est vrai qu'il est important, en fait, que les alliés agissent aussi en tant que tels et fassent et créent des espaces les plus appropriés pour les personnes qui elles veulent aider, quoi.
Moi, je voulais juste réagir par rapport à ça. C'est vrai que la culture, de manière générale, il y a deux... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a deux cultures. Il y a la culture qui est acceptée par la société et il y a la culture qu'on essaye de marginaliser un petit peu. C'est vrai que les musiciens qui vont, par exemple, jouer en rave party ou des trucs comme ça, ils sont beaucoup moins considérés que, je sais pas moi, un chanteur opéra, par exemple.
Ouais, carrément.
Et on voit bien que là, il y a une grosse disparité de moyens. Parce que certes, il y a le statut d'intermittent qui protège un petit peu, qui est présent en France, mais pas partout dans le monde. Mais c'est pas suffisant.
Ouais.
Je voulais juste signaler ça.
Et pour moi, il y a aussi tout un aspect politique, c'est-à-dire qu'on parle de ce qui manque aujourd'hui, c'est de véritables politiques de soutien psychologique pour les artistes qui sont intégrés à leur environnement professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si un collectif gère ces questions-là, c'est que c'est des valeurs du collectif. C'est qu'il y a des personnes au sein de ce collectif qui ont clairement travaillé à le mettre en œuvre, un petit peu comme ce que tu nous racontes. Et en fait, je pense que le fait est d'admettre que c'est quelque chose, genre la santé mentale, que du coup il y a une vraie détresse. J'ai une étude depuis tout à l'heure que je garde qui pour moi vraiment montre bien ça. Il y a une enquête menée par Stress Matter qui montre que 28% des professionnels de l'événementiel se sont déjà absentés de leur milieu de travail à cause de questions de santé mentale.
Ouais.
Donc ça prouve bien que c'est un vrai enjeu, que si je parle d'un point de vue plus global, le fait que, par exemple, il y ait des partis politiques qui considèrent que la techno, par exemple, c'est une sous-culture, mm-hmm. bah, c'est vrai que ça nous fait penser un peu au traitement qu'avait le hip-hop avant, que le reggae aussi a eu, que le dub ouais. a eu. Et en fait, c'est des milieux qui sont, à mon sens, fondamentalement militants. Et du coup, je trouve ça aussi logique que ce soit les premiers milieux qui ont fait un peu émerger bah, le besoin de traiter ces questions de santé mentale. Je pense pas que ce soit moins pertinent dans d'autres milieux. Tu vois, tu l'as très bien dit au début de l'émission. C'est peut-être plus qu'on a un public qui est peut-être plus sensibilisé. Et que du coup, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé des questions de rapport de pouvoir. Et je pense que c'est inhérent aussi à n'importe quel milieu, quoi. Et le milieu festif, c'est un milieu dans lequel on pourrait penser que tout est rose, tout est ouais. cool. Parce que c'est porté sur la fête, que les personnes qui maintiennent la soirée, c'est des personnes qui sont très solides. Mais en fait, derrière cette solidité, bah, y a juste un ou une humaine qui a peut-être pas le milieu pour s'exprimer. Et d'ailleurs, je me permets de vraiment valider le... tu peux me rappeler le nom de ton organisation ?
Au-delà du club ou Réinventer la nuit ?
Yes, ouais, je trouve ça vraiment génial, le fait que vous ouvriez un peu des espèces de cercles d'intégration. Vraiment, il faudrait bien plus de choses comme ça, d'initiatives comme ça. Et je pense vraiment que ça devrait être porté politiquement, c'est-à-dire sur les questions de... Tu vois, genre l'Agence régionale de santé, ils devraient mettre une lettre, genre, je sais pas moi, 50 000 balles, c'est un exemple.
Placement, hein. Et je pense pour les structures.
Ouais.
Et que ce soit fait en interne pour les personnes qui travaillent dans chaque secteur, en fait. Enfin, je sais que Cura, le collectif ouais. que tu citais, je crois que c'était une de leurs ambitions de créer une cellule psychologique au sein des agences de booking pour que les artistes puissent en référer à tout moment. Ouais. Et que, bah, il faudrait que ça se décuple pour les clubs, pour que les personnes au bar, par exemple, qui sont parfois les premières personnes confrontées à certains enjeux, enfin, hyper violents, en fait, et que ce soit vraiment interne à chaque structure, ce serait le top.
Je vais bien rajouter un tout dernier truc. Il y a un truc que tu as mentionné que je trouve trop intéressant, c'est la notion de la pression constante que tu as, par exemple, en tant qu'artiste. C'est-à-dire que pour être un artiste bien vu, tu dois produire, rester visible, répondre à toutes les opportunités, même si genre elles sont mal ou pas rémunérées. Et de l'autre, tu dois faire face, du coup, donc tu as ton instabilité économique qui fait face à genre ton instabilité émotionnelle. Et en fait, tu es juste en ping-pong entre les deux. Et je pense vraiment que c'est un système qui se veut super maltraitant. Et dans lequel, en vrai, si on se questionne un peu sur qui gagne le plus, bah, je pense que c'est les gérants de salle. Si pour être super honnête, moi, je me permets de poser ça comme ça, parce qu'il y a plein de salles auxquelles, quand tu fais des événements de style un peu de minorité, enfin, tous les styles que j'ai cités, qui sont souvent des styles très engagés, genre techno, dub, reggae, même si c'est de moins en moins vrai pour des styles comme le reggae qui ont gagné un peu leur lettre de noblesse, si j'ose dire. Ben en fait, tu vois que déjà dans le choix des soirées sur 10 salles, déjà, ben t'en as 7 qui te refusent. Donc en fait, tu sais, il y a un peu un truc d'offre et de demande, quoi. Et je pense vraiment que ça devrait être porté politiquement, en fait.
Ouais, je suis grave d'accord avec ce que tu dis, et c'est pour ça qu'à mon sens, il est hyper important quand tu arrives justement dans un établissement de non seulement faire comprendre qu'il y a véritablement une demande, que tout le monde y est gagnant, parce que généralement c'est ça les problématiques qui se posent. Généralement, quand tu vas arriver avec un projet un peu pas alternatif, mais du coup qui représente une communauté minorisée, on va dire, les gérants de clubs vont te dire ça ne va pas nous rapporter de bénéfices, on ne va pas faire d'argent. Le fait est que si, on fait du bénéfice justement, et en fait dès le moment où toi tu changes ton positionnement et que c'est un peu spécial ce que je dis, mais en tout cas que tu te... Comment dire ça avec les bons termes, mais que tu changes ton positionnement, que tu ne te mets pas en dessous de genre on a besoin de ça, mais voilà comment les choses vont se passer. La prise de, comment dire, déjà ton positionnement ne sera pas le même, et en tout cas
le rapport
de pouvoir n'est absolument pas le même, parce que c'est toi qui récupères le pouvoir et c'est toi du coup qui impose les choses, et c'est comme ça à mon sens qu'on fait avancer nos communautés finalement. Et je sais que nous, c'est ce qui s'est passé par exemple avec la Pulse, c'est que par exemple quand on a commencé au début les clubs, en tout cas on a demandé à un club au tout départ, c'était le Pamela, qui au départ était un peu nous disaient « Ah, on ne sait pas si ça va fonctionner ». Parce que du coup, on proposait un format de soirée uniquement pour les femmes notamment racisées, pour les personnes transmasculines et non binaires. On nous a dit « Ça ne va pas fonctionner ». Sauf que dès la première soirée, en fait, ça a été leur soirée la plus remplie depuis qu'ils avaient ouvert le club. Et en fait, quand tu arrives avec justement des... Ouais, vraiment. Quand tu arrives justement avec des... Avec des preuves comme celle-ci, ils n'ont pas d'autre choix que de plier, entre guillemets, tu vois. Aujourd'hui, je pense que les soirées techno, en tout cas, la communauté techno, c'est une des plus grosses communautés en France, en tout cas dans le milieu festif, qui rapporte énormément d'argent. Et dès lors, je pense qu'on change de positionnement et qu'on leur explique que vous avez besoin de nous, en fait. Donc voilà comment les choses vont se passer. Tout change, je trouve.
L'étude, elle révèle aussi que les femmes sont 6,5 fois plus victimes d'agressions sexuelles que les hommes dans l'industrie musicale. Quelles sont les pressions spécifiques que peuvent ressentir les artistes ou organisatrices minorisés en termes de genre, selon vous ? Comment le genre, il peut influencer sur la manière dont on vit, dont on exprime aussi, ou dont on tait justement sa vulnérabilité psychique, psychologique dans ces milieux-là ?
Ouf, beaucoup de choses à dire.
Qui veut commencer ?
Beaucoup de choses à dire là-dessus.
Peut-être que je peux prendre la parole là-dessus parce que c'est un sujet que je traite et sur lequel j'apporte des réflexions avec mon collectif au-delà du club. Et en fait, via aussi les cercles de parole. Franchement, c'est des espaces où les témoignages sont les plus purs et donc c'est des espaces en non-mixité, donc qui concernent les femmes, si c'est trans et les personnes non-binaires. Et comment. Ça influe d'être une personne sexisée, à plein d'endroits en fait. C'est juste que déjà en tant qu'artiste femme, si je parle en mon nom et en ma propre expérience, j'ai l'impression que derrière le boost, en tout cas, on va me sexualiser, on va attendre que je performe d'une certaine façon parce qu'il y a cet imaginaire commun de la femme qui doit être sexy, qui doit sourire, machin. Et en vrai, j'ai déjà eu grave des commentaires en mode t'es une meuf et tout, mais putain, t'envoies du lourd, hein, je m'attendais vraiment pas à ce set, machin. Et je suis en mode MDR. Et puis même, tu vois, moi j'aime bien parfois, ok, m'habiller sexy, c'est un truc que je kiffe faire, et parfois pas du tout. Tu me vois en casquette, capuche derrière le boost, et j'ai vraiment pas envie de sourire, et je suis concentrée. Et en fait, j'ai pas envie de m'adapter parce qu'on va projeter une image de moi. À la limite, j'ai envie de faire vraiment l'opposé. Donc, ça influe, je pense, la sexualisation des artistes, c'est un vrai truc. Le fait qu'on soit hyper vulnérable d'être exposé autant sur les réseaux sociaux. Il y a ce truc d'avoir un contact direct avec son public qui a ses avantages. Ça peut être cool, tu vois, de connecter parfois directement, et parfois les gens ils te contactent, mais vraiment pour booster leur ego, pour parfois donner des commentaires. C'est un vrai sujet, les commentaires non sollicités, et ça amène vraiment, et je pense que c'est un vrai sujet notamment quand t'es une fille, justement parce que je sais pas, il y a ce contact, d'avoir envie directement d'aller lui dire un compliment ou quoi. Et en fait, c'est une vraie charge mentale au quotidien d'être sursollicité et de se rendre vulnérable autant. Et en fait, oui, ça a forcément un impact sur la santé mentale. Et puis après, y a tous les enjeux d'agression sexuelle et puis l'impact que ça a. Juste, on parlait de précarité. Est-ce que vraiment ça donne envie de se lancer dans une carrière en tant que femme quand tu sais ce qu'il y a derrière ? Quand tu sais que tu vas potentiellement, quand tu fais un B2B, tu vas pas prendre de place parce qu'en fait, c'est le mec qui va t'expliquer comment, à tel endroit, tu mets ton point Q. C'est tout ça au fur et à mesure que t'évolues dans ta pratique. Souvent, ton entourage, c'est tes potes. Il y a une vraie porosité aussi qui est spécifique au milieu festif. C'est que ton entourage professionnel, c'est généralement tes potes ou en tout cas des personnes que tu connais. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on est en train de montrer avec Au-delà du club. En fait, depuis qu'on mène des sacs de parole, il y a une présence d'Au-delà du club qui est là pour remplir une grille d'analyse et faire remonter des grandes données d'analyse qu'on est en train de projeter, de réaliser une étude exploratoire. Ouais. Et c'est aussi une des données qu'on est en train de montrer avec cette étude. C'est la porosité qui est spécifique au milieu festif entre liens amicaux et liens professionnels et les impacts que ça a sur le long terme. Et en fait, c'est là où tu vois que, on le sait aujourd'hui, les agressions sexuelles, elles se passent dans les cercles proches. Et en fait, quand c'est tes cercles professionnels, non seulement tu as un impact émotionnel, mais en plus, tu peux plus travailler, quoi. Donc, il y a plein de choses qui font que tout est lié, quoi.
Je voudrais qu'on parle aussi de racisme et de discrimination, parce que même dans nos scènes justement dites alternatives, le racisme et les discriminations, ils existent. Comment est-ce que ça peut affecter la santé mentale des personnes concernées? Quelle forme aussi est-ce que ça peut prendre?
On vit dans une société raciste, donc je pense que dans tous les espaces, finalement, et surtout artistiques, en vrai, c'est quelque chose qui va se répercuter également dans les milieux artistiques. Déjà en général, il y a forcément cette notion de quota, donc il faut qu'il y ait un tel nombre de personnes racisées, il faut qu'elles ressemblent à ça, enfin tu vois, ouais. on va vouloir une personne noire, mais il faut que ce soit la personne noire qui ressemble à ça, on va vouloir une personne nord-africaine, il faut qu'elle ressemble à ça, enfin tu vois,
ouais.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives en non-mixité, parce que honnêtement, les artistes, et j'en fais partie, en ont marre, en fait, justement, de toutes ces formes de racisme et de discrimination, parce que ça n'est plus possible et que du coup, c'est hyper compliqué, déjà d'être perçu à travers un biais premier, par exemple, en tant que femme. Voilà, t'es une femme, donc du coup, on va attendre de toi que tu sois moins forte qu'un homme, ou que tu sois plus comme ci ou plus comme ça, que tu sois dans la séduction ou je sais pas trop quoi. Mais quand, en plus de ça, t'as d'autres intersectionnalités qui se rajoutent, et notamment liées à ta couleur de peau, à tes origines, à ton orientation sexuelle, à ton genre, etc., c'est extrêmement compliqué. Et je sais que, par exemple, ça fait qu'aujourd'hui, non seulement les personnes racisées ont envie de ne travailler qu'entre elles pour ne plus subir ce genre de discrimination ou toute forme de racisme, mais aussi ça crée un système où du coup on ne va s'entraider et se donner les ressources qu'entre nous, parce que du coup on ne se sent ni safe, en tout cas en général, lorsqu'on est entouré de personnes blanches, parce qu'on sait forcément que il y aura tôt ou tard une forme de débordement, quoi. Donc, je sais, en tout cas, si je devais parler personnellement, je sais que je n'ai jamais autant aimé la fête que depuis qu'on a créé un espace en non-mixité avec Mariana, finalement. Mmh. Et ça en dit long.
Ouais.
Ça en dit long parce que c'est la première fois, je crois, et je sais que je parle beaucoup de la puce depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment la première fois, je crois, depuis toute ma vie où j'ai été dans un endroit déjà avec des personnes qui me ressemblent, et ça c'est hyper important, auprès desquels on n'a pas besoin d'expliquer, qui vont pas avoir un geste déplacé, qui vont pas finalement faire quelque chose qui va nous trigger, ou en tout cas me trigger, ou me faire me sentir mal, ou me dire ah purée, tu vois là, j'aurais pas dû venir, il faut que j'entre chez moi, ou etc. Enfin, et ça c'est hyper important, et on vit tellement déjà dans la société énormément de violences au quotidien, énormément de micro-agressions. On doit tellement se justifier d'exister, d'être talentueux, de mériter les chances et les opportunités qu'on a, que le fait d'avoir un espace où on ne vit pas ça et on est uniquement avec des personnes qui nous ressemblent, c'est tellement libérateur et ça fait du bien. Et c'est hyper important aussi, justement, que les personnes en face, du coup, les personnes du coup blanches, le comprennent et le respectent. Parce que ça aussi, c'est une forme de racisme et de violence, je trouve aussi, que de ne pas vouloir respecter l'espace créé par les personnes concernées, quoi.
Merci beaucoup de partager tout ça avec nous. L'étude, elle met aussi en avant une consommation importante d'alcool et d'autres substances chez les artistes. Quel rôle jouent justement les drogues dans la gestion ou dans l'aggravation de la santé mentale dans les milieux festifs? Comment vous, au sein de Techno Plus, vous différenciez les différents usages de drogues? Est-ce que vous considérez certains usages comme festifs et d'autres comme problématiques, par exemple?
Alors, c'est une vaste question. Les substances, ça peut vraiment jouer plein de rôles. En général, le premier truc auquel on pense, ça va être toute la question des comportements anesthésiants. C'est-à-dire, il y a un truc qui te traîne dans la tête, tu ne veux pas y penser, tu vas te droguer. Mais nous, on y grave le fait que ce soit le principal, la principale fonction. La drogue, ça peut aussi être dans un comportement ordalique. C'est-à-dire, tu peux aussi faire ça pour te prouver un truc, pour te faire sentir partie d'un groupe. Et d'ailleurs, c'est souvent le premier pas, ça, dans la majorité des consommations de substances. Nous, souvent, quand on va en parler, il y a un modèle qu'on utilise souvent pour parler un peu de l'impact qu'a une consommation. C'est ce qu'on appelle le modèle de set and setting, c'est-à-dire tu prends une drogue dans un contexte en étant toi. Donc ça veut dire personne, contexte, drogue. Et en fait, tu vois que ces facteurs, quand ils varient, ils peuvent largement expliquer comment une drogue t'impacte plus négativement qu'une autre. Donc si je prends dans le contexte du milieu festif, on voit que la majorité du temps, ces drogues, elles vont être utilisées pour intensifier l'expérience sensationnelle, la créativité, la connexion aux autres. Mais en fait, ce qui devient très vite un peu pas de gueule, c'est que c'est un peu des pentes glissantes et que ce que tu faisais avant sans substance, bah, tu te retrouves à te mettre dans un automatisme où tu le fais qu'avec substance. Et je pense que c'est finalement la consommation de substance, c'est un petit peu comme cette table, si tu veux. Genre, si tu n'as qu'un pied qui est la consommation de drogue et qui est au centre, c'est sûr que tu vas pas être très stable. Mais si, genre, parler en cercle d'intégration, c'est un de tes pieds, que consommer dans des contextes festifs, mais aussi faire des balades. En fait, l'idée, c'est que tu sois pas tenu par ça, en fait. Et je pense que c'est super important de se poser la question de manière générale. Pourquoi je fais ça? Pour qui je fais ça? Le fait vraiment de prendre le temps. Et il y a aussi un truc que je rajouterais, c'est que on a parlé de pas mal de stigmatisation qui se jouait au niveau pas que des artistes, mais de personnes de l'ombre. Mais cette stigmatisation, elle se joue aussi beaucoup au sein du dit collectif. Et vraiment, j'ai vu aussi beaucoup de personnes avoir des comportements très stigmatisants, par exemple sur des questions de toxicophobie, alors que nous, avec T+, on est vraiment très clair sur le fait que, par exemple, il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure. Ça vient de la législation. Je vais vous passer toute l'explication, mais pour le coup, c'est un truc qu'on a hérité des États-Unis. Ça n'a pas de notion sanitaire. En fait, c'est avant tout des usages qui sont doux ou durs. Ça va te paraître super contre-intuitif ce que je vais te dire, mais tu peux te faire beaucoup plus de mal en fumant, 10 grammes de beuh tous les jours pendant un mois, qu'en prenant de l'héroïne une fois par semaine pendant un mois. Je sais que c'est super contre-intuitif, mais pour le coup, en fait, c'est vraiment une question de à quoi ça vient répondre chez toi, dans quelle mesure aussi t'en prends, parce qu'il y a toujours des notions d'intensité et de fréquence. Peut-être que t'en prends pour de très bonnes raisons, mais si tu t'es fait 3 grammes de coke en 10 minutes, vraisemblablement, ça n'a pas allé super. Voilà, donc si je résume, le produit, l'état d'esprit dans lequel tu es et le contexte de consommation, c'est super important de prendre ces facteurs en compte, et c'est ce qui va faire que peut-être si tu t'es fait larguer, même si t'as une super soirée, peut-être t'es pas le meilleur état là pour prendre ce taz, par exemple. Et de fait, si tu le prends très souvent, ça va être des gens comme Techno Plus ou d'autres assos de RDR qui s'en occupent. Et je finirai sur ce tout dernier point. Nous, on travaille pas du tout seul maintenant sur les événements. Les assos de réduction des risques sont de plus en plus accompagnés par des assos de contre les violences, sexité sexuelle. Et vraiment, ça nous enlève un vrai poids, quoi. C'est-à-dire que c'est une vraie question. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais ces notions-là, elles n'existent pas. » Si, si, en fait. Juste ça, on les rend visibles. C'est-à-dire que ça a toujours été là. Moi, c'est plus qu'un point de vue. C'est vraiment notre point de vue d'assaut. Il y a toujours eu des agressions sexuelles. Il y a toujours eu des choses qui n'étaient pas OK. C'est juste qu'on crée de plus en plus d'espaces où les gens peuvent s'exprimer. Et le fait d'avoir des personnes allouées à ça toute la soirée, ça rend visible beaucoup de choses. Vraiment, je trouve que le constat que tu nous poses, il est glaçant. 6,5 fois, c'est énorme.
Oui, c'est énorme. Merci beaucoup. Est-ce que, pour terminer, parce qu'il nous reste juste quelques minutes, chacun, chacune aurait des ressources, des collectifs, des initiatives qui aident les artistes, les actrices du milieu festif à mieux gérer leur bien-être mental?
En vrai, moi, je peux juste rappeler que les cercles de parole qu'on a mis en place, du coup, ils sont une fois par mois destinés aux professionnels sexisés du secteur nocturne. Quand je dis professionnels, c'est d'ailleurs à temps plein ou partiel, parce que généralement, quand tu commences à être artiste, tu te sens pas légitime et pourtant, tu as vécu des agressions comme des professionnels à temps plein, quoi. Donc voilà, c'est une fois par mois au point éphémère. Donc j'invite les auditoristes à suivre le compte Insta de Réinventer la Nuit. Et aussi, on s'est fait approcher par nos alliés les hommes, je sais pas si vous voyez ce compte Instagram, c'est des groupes de parole qui sont pour les alliés hommes cis et auteurs de violences cis. Et du coup, j'invite aussi aux personnes du coup alliées à se rassembler entre eux et parler de leur violence dans un contexte cadré, très important, par des féministes qui ont l'habitude de prendre en charge ce genre de groupe. Donc pareil, les professionnels de la musique dans le secteur nocturne, allez-y.
Tiens, je t'en prie, à part ça.
Non, vas-y.
Alors moi, j'ai noté 2-3 trucs. Mais en très rapide, il y a le Psylab qui propose des groupes de parole pour artistes et techniciens du spectacle. Sur la question des VSS, je me suis permis de noter 3 assos. Le Red Flag 9-3, qui est l'équivalent un petit peu à Paris. Consentis, Serein, Sereine, font un super taf. Mmh. Et sur la question de la réduction des risques, vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer un message à Technoplus.
Technoplus.
Ouais, bah écoute, moi déjà, bah merci beaucoup pour l'invitation. J'ai été ravie d'avoir cette discussion avec vous. Bah voilà, je pense que les ressources, elles ont déjà été citées. Et elles font un travail assez formidable. Et on en a besoin et c'est vraiment important. J'ajouterai aussi l'association Stop Ficha, qui fait un travail exceptionnel. Vraiment depuis de très nombreuses années et nous je sais qu'on travaille beaucoup avec elles et elles sont vraiment exceptionnelles et puis après voilà je me citerai moi-même mon podcast
Mental Health Radio
voilà sans vouloir parler de moi spécifiquement mais c'est important que vous le voilà que vous écoutiez ce podcast ou non mais en tout cas j'invite vraiment tous les artistes à parler et à se faire passer en premier, à partir de Paris, si vous n'êtes pas plus heureux à Paris, mais surtout à parler, ne vous isolez jamais, et n'ayez pas peur de... Le fait de parler ne va pas vous enlever du travail, au contraire, ça va vous faire gagner des années de vie, c'est hyper important. Donc voilà.
Merci beaucoup. C'est déjà du coup presque la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous tous d'être venus nous parler de ces sujets. Je pense qu'il faut qu'on fasse une deuxième version de cette émission parce qu'il y a plein de questions que j'ai pas eu le temps de poser et il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Je vous invite du coup à aller checker le taf de toutes les personnes qui étaient là ce soir, le podcast Mental Health Radio de Stencia, les sets de Bambi, c'est ton nom d'artiste. Merci. Et le travail, bien sûr, de Au-delà du club, pardon, et de Réinventer la nuit. Les ressources absolument géniales que propose Techno Plus et les super soirées et festivals de Nataraja. D'ailleurs, du 9 au 13 juillet, il y a le Nataraja Gathering Festival qui se trouve où ?
En Bourgogne.
En Bourgogne. Voilà, tout le monde ici a un compte Instagram. Tous les collectifs ici ont un compte Instagram. Donc je vous invite à aller leur donner de la force. Merci encore d'être venus. Pour finir en beauté cette émission, on va écouter la balade sonore que nous propose notre chroniqueuse Agathe.
La fête, c'est l'autoroute du kiff. Genre littéralement pour moi, c'est comme si je sautais dans un cabriolet à 1000 allures, direction les banlieues désertées. Le concept, c'est d'être complètement défoncé sur cette trans-cabriolet. À quoi on carbure ? Je sais pas. Mais on oublie le frein à main jusqu'au lendemain, c'est le concept. Se laisser s'emporter sur une musique concrète. Le monde s'exporte, et peut-être que je serai totalement morte sur la piste. Artiste, occultiste, nudiste, soliste, danse, peut-être que tu t'inventes. Je veux brûler de mon imprudence. Oubliez vos pathétiques idées. Ce n'est pas une danse cathartique, c'est une pratique poétique punk. Une tactique dramatique subversive. Une tentative de réinventer une dialectique. Une pratique politique. Une magnétique des corps. Une mystique anticapitaliste. Une gymnastique antipatriarcale. Une sémantique de la révolte. Un soulèvement indifférent de votre sort. De Détroit jusqu'au Trésor, n'oubliez pas, c'est eux qui l'ont créé. Qui ont ouvert les esprits étroits. Coup d'état sonore. À qui ses dangers et ses morts. Mystique nymphe de mes nuits, remplis mon ennui par le bruit. J'implore, je veux une montée expéditive, désactiver mon épiphyse sur la musique répétitive. Avoir des pensées diapositives pour une danse primitive. Oiseau de nuit mais pas une fugitive. C'est une missive radicale qui stérilise ce monde qui divise, tranquillise les compétitives habitudes, tranquillise ton esprit, divise par la dissidence. Danse. Danse, qu'elles vivent les radicales âmes des décadentes coïncidences. Je ne veux plus qu'entendre l'éloquente guidance des répétitions transcendantes des existences. Intense danse brûle mon arrogance sans quittance, la musique te donne. La musique offre et toi, sur le dance floor, tes bras s'ouvrent et touchent l'air en technicolor. Explore les sensations. Je le sens en mon fort. Faut que je saute dans cette bagnole en direction des banlieues désertées. C'est le concept d'être complètement défoncé sur cette transcabriolet. Et j'ai brisé le plafond, décapoté la société, ouvert les bas-fonds, vu les toits étoilés. Et je suis complètement défoncée sur cette transcabriolet. Cheveux au fond, c'est un aimant. On danse sur cette transcabriolet, complètement défoncée, la nuque suante, les mains ondulantes, frôle les tessons du ciel, s'écorche sur les brisures, le rouge coulant du miel. Qui sait à quoi on carbure ? Son regard me ment, les coupures brasillantes, la nuque suante, les cheveux au vent. La femme du cabriolet me regarde de ses yeux aussi hagards, me demande un malabar et je sors fumée. La douce amie de mes jours me paraît presque aigrie en ces nuits, tant il est bon de danser dans les vapeurs ardentes, des voleuses de temps parmi les coups de pied et les cassantes amantes des ondes qui parcourent nos corps. J'ai cru anéantir la société, en une soirée brûler les idées, briser les plafonds, ouvert les bas-fonds. Sur des booms clairvoyants, on danse sur cette transe cabriolet, cheveux au vent, complètement défoncés, c'est le concept. La nuque suante, les mains ondulantes, transe cabriolet, la nuit, je suis danse suante, fumée odorante, corps fumant, baiser ardent, transe, danse suante, fumée odorante, corps fumant, baiser ardent, cabriolet. Et je rentre le ciel perd ses étoiles et les reflets de Pigalle, ses ampoules boréales me saluent amoureusement et brûlent ses écorchures où coulent des baisers durs.
Merci beaucoup Agathe, merci beaucoup à tous d'être venus au micro d'Au Pays des Rêves. C'est déjà la fin de l'émission, vous pourrez la retrouver dans quelques jours sur Apple Podcast, Spotify, sur Deezer et aussi sur le site de Radio Campus Paris. On se retrouve le mardi 27 mai à 21h comme d'habitude pour le prochain épisode qui portera sur les luttes climatiques dans nos milieux festifs. Merci beaucoup, à très vite.